dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et nous parlons justement de gestion thématique ce soir à travers le thème du sport. Comment investir dans le sport? C'est la question qu'on pose à Arnaud Morvillez, qui est à mes côtés, gérant chez Uzès Gestion. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Grégoire.
Merci beaucoup. Vous gérez, vous co-gérez un fonds sur la thématique du sport chez Uzès Gestion. Comment vous avez défini cette thématique? Donc, pour qu'une thématique soit valable, il faut qu'elle soit globale, il faut qu'elle soit séculaire, il faut qu'elle soit aussi multisectorielle. Et donc, le sport coche toutes ces cases, j'imagine. Arnaud, comment vous avez défini le périmètre et comment cet univers d'investissement se retrouve dans la stratégie que vous pilotez?
Alors, nous avons effectivement lancé une stratégie sur le sport il y a 4 ans maintenant chez Uzès Gestion. On a divisé l'univers du sport en deux. Voilà, on est parti dans un premier camp de la situation historique, dans ce qu'on appelle nous l'économie historique du sport. Et ensuite, on a la nouvelle économie du sport qui a émergé ces dernières années. Au sein de l'économie historique du sport, on a trois sous-piliers d'investissement. Le premier, c'est tout ce qui est marketing et événements sportifs.
Ouais.
Donc là, on est sur une thématique pas forcément investissable du côté public. C'est une partie importante de l'économie du sport, mais nous, on ne regarde pas forcément cette partie-là. C'est les événements sportifs, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques et le sponsoring. Voilà, c'est quelque chose que nous, on ne fait pas.
Ouais, c'est pas forcément coté dans les marchés pour pouvoir être investi par vous aujourd'hui, c'est
exactement,
ça.
Exactement, c'est
d'accord.
Ça. Voilà.
Très bien.
Les événements sont privés,
ouais.
Voilà, pas dans le public. On a la seconde partie, tout ce qui est équipement sportif. Donc là, on retrouve tous les équipementiers mondiaux, ouais. Les Puma, les Adidas, les Nike. La distribution, on a des entreprises comme JD Sport, côté à Londres, Dick Sporting Goods, côté à New York, qui sont, voilà, on a également tout ce qui est fabricant de vélos, d'équipements pour les vélos, les pièces détachées, ce genre de choses.
Donc, ah ouais.
C'est vraiment le principal pilier de l'économie du sport aujourd'hui. Et enfin, on a tout ce que nous, on a dénommé acteurs acteurs de l'économie du sport. Donc là, on retrouve tous les clubs de foot, par exemple.
D'accord.
Les infrastructures, comme les stations de ski cotées en bourse, la Formule 1, Ferrari, voilà, ce genre d'entreprise. Donc c'est vraiment ces trois piliers qui représentent l'économie historique du sport. Et là, on est sur une croissance historiquement, entre 1,5 et 2 fois le PIB mondial.
D'accord, ouais, donc c'est un peu plus que la croissance mondiale.
Oui.
Donc ça, c'est l'historique qui reste un historique en croissance, un monde en croissance pour vous. Et puis, donc, il y a toute la nouvelle économie du sport, c'est ça, qui est l'autre dimension de la stratégie, Arnaud, et qui regroupe quel type de vertical?
Alors là, on a identifié 4 secteurs satellites qui sont en forte croissance, eux. Le premier, c'est tout ce qui est médias et diffusion. Voilà, depuis plusieurs années, on est persuadé que le modèle de diffusion à la télé change, que les besoins des consommateurs ont changé pour consommer le sport à la télé. Et on voit toutes les plateformes OTT qui gagnent des parts de marché dans ce secteur-là. Donc des Amazon, des Google, par exemple, prennent des parts de marché dans ce secteur-là.
Ouais. Ça devient, les GAFAM deviennent des acteurs du sport.
Oui,
en tout cas, c'est vrai que la taille de ces entreprises est tellement grande. Ouais. Leurs activités sont tellement diversifiées. Apple fait de la santé, fait de la finance, monnaie, etc. Enfin, il y a tellement de choses. Mais il y a aussi cette dimension sportive qu'on peut identifier chez quelques grands GAFAM aujourd'hui.
Alors, c'est évidemment assez petit pour eux.
Ouais,
mais
oui.
C'est en croissance. Et on voit Amazon qui a pris voilà, le tennis il y a quelques années sur Roland-Garros.
Bien sûr.
Qui a débuté le tennis, qui a pris la Ligue 1 suite à Mediapro, l'échec de Mediapro il y a quelques années. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en forte croissance chez eux en tout cas.
Ouais. Ça, c'est une première verticale, voilà. Effectivement, de la nouvelle économie du sport.
La seconde, c'est tout ce qui est lié à l'e-sport. L'e-sport, c'est un secteur qui est voilà, en pleine croissance, qui est au début d'une histoire. Ça se structure, ça attire des capitaux. Alors nous, on investit sur tout ce qui est voilà, éditeur de jeux vidéo, des fabricants de matériel pour le e-sport. Et après, on s'agroupe aussi les équipes professionnelles qui sont venues se coter en bourse, par exemple, sur le e-sport. Donc il y a tout un univers voilà, qui se structure et qui attire des capitaux aujourd'hui.
Vous avez une idée de ce que le e-sport pourra représenter demain, enfin, à quel type de sport en termes de masse et de chiffre d'affaires? Est-ce qu'on va le comparer? Ce sera un jour comparable à ce qu'est le foot dans le monde ou le rugby ou des grands sports mondiaux comme ça? Ça reste beaucoup plus confidentiel aujourd'hui ou pas? Parce que
alors,
quand je vois les salles remplies pour des finales de je ne sais quel jeu d'ailleurs. Ouais, je veux dire, c'est effectivement, quand on est dans le monde historique du sport, c'est sûr que ça paraît délirant. Déjà aujourd'hui.
C'est au début.
D'accord.
On est au début du voilà, ça se structure des ligues de League of Legends existent aujourd'hui. On en parle dans les journaux. L'équipe maintenant, par exemple en France,
ça s'institutionnalise
sur le e-sport.
Ouais, ouais.
On est en pleine croissance et à terme, effectivement, on rattrapera pas forcément le football ou le rugby qui sont vraiment les sports majeurs, mais voilà, des sports un peu.
Oui, mais c'est plus que l'escrime ou la natation, ce que je veux dire aujourd'hui. C'est... Non.
Oui, oui.
Oui, pour... c'est, voilà, voilà. C'est déjà un sport.
C'est moins confidentiel qu'effectivement l'escrime ou la natation, par exemple. Troisième sous-secteur de la nouvelle économie du sport, c'est tout ce qui est lié au sport et à la santé, évidemment, là qui est en pleine croissance. Voilà, le Covid a encore accéléré ce phénomène. Il y a réellement une prise de conscience que le sport est bon pour la santé. Alors, c'est très pareil. Ça paraît évident aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Et voilà, on voit les opérateurs de salles de sport venir se coter en bourse. On a Technogym qui a été un équipementier premium dans ce secteur-là qui est très intéressant. On a également la nutrition.
Ouais, bien sûr.
La nutrition du sport qui est, voilà, qui est en pleine évolution et également en pleine accélération. Voilà, donc c'est un secteur un peu entier de la nouvelle économie du sport. Et ensuite, voilà, tout ce qui est sport-tech. Donc, c'est des boîtes, alors, des entreprises qui ont levé de l'argent pour se développer autour du sport et des nouvelles technologies. On a quelques exemples, mais ça va amener à se développer dans les prochaines années pour ces boîtes.
Et c'est, alors, c'est quoi spécifiquement sport-tech par rapport, parce que j'imagine qu'il y a de la tech chez les équipementiers. Il y a de la, c'est quoi ce que vous identifiez alors, comme sport-tech spécifiquement?
C'est une entreprise qui autour de la technologie et du sport. Donc, on a des exemples assez précis. On a eu Peloton qui est venu se coter en bourse il y a quelques années. Bon, forcément, en bourse, c'est pas forcément un succès, mais c'est une sport-tech.
Donc, c'est les machines d'appartement, mais avec beaucoup de digital, avec beaucoup de connexions, etc. D'accord.
Voilà, il y a eu Vogo qui est un exemple français de sport-tech. Et après, il y a beaucoup d'entreprises françaises, par exemple Sorare, qui est privée. Et peut-être qu'un jour, ils accepteront de se coter en bourse pour lever des capitaux et poursuivre leur croissance.
Ah ouais. Ok. Non, c'était pour bien comprendre ce que c'était que de la sport-tech, parce que la tech, il y en a partout aujourd'hui. Tiens, justement, parlons un peu des équipementiers quand même. Alors, ils sont dans les activités, l'économie historique du sport, mais au sein des équipementiers, il y a des équipementiers historiques et puis il y a de nouveaux équipementiers qui sont aujourd'hui plutôt en grand développement, en forte croissance. Nike faisait un warning il y a une dizaine de jours. Que nous dit le warning de Nike? Des difficultés peut-être des grands acteurs historiques avec toute la legacy, la taille qu'ils ont à gérer dans cet univers. Et qui sont les nouveaux entrants et des nouveaux entrants investissables aujourd'hui pour une stratégie comme la vôtre, Arnaud?
Alors nous, on est assez confiants sur des entreprises qui gagnent des parts de marché dans des verticaux très précis de l'industrie du sport. Je pense notamment aux chaussures de sport, de running. Voilà, on sait que les sports outdoor, les sports d'extérieur, le running est en pleine explosion et accélère réellement. Et effectivement, des nouveaux entrées gagnent des parts de marché sur des innovations technologiques très fortes. Je pense à On Holding, qui détient la marque On dans le running. Ou encore
Ça, c'est Suisse. C'est flagué Roger Federer,
Roger
c'est ça
On Holding, capital,
d'accord.
Exactement. Ouais. Ils ont fait une IPO à New York il y a quelques semestres. Et également, voilà, Oka, qui était une marque française qui a été rachetée par un groupe américain, Descartes Outdoor. Et Oka, clairement, voilà, gagne des parts de marché dans le secteur du running. Et ça, ce sont les équipementiers qui vont après se diversifier, qui vont s'internationaliser, qui vont augmenter les réseaux de distribution. Et voilà, les produits marchent et continueront à marcher.
Et là, on est sur des marchés effectivement cibles. C'est la technicité des produits qui est le déclencheur d'achat, essentiellement, c'est ça. Hein,
ouais, clairement. C'est ça. Clairement, c'est des parts de marché, des gains de parts de marché sur l'innovation.
D'accord.
Et c'est peut-être là où les grands équipementiers ont peut-être pêché récemment. Ouais. Voilà, on a un manque d'innovation chez Nike, clairement, aujourd'hui. Et on espère que voilà, l'entreprise pourra émettre des nouveaux produits, de l'innovation dans les prochaines années.
Concrètement, là, sur le warning d'il y a 10 jours, qui a fait quand même du mal, hein, c'est une blue chip historique, Nike aux États-Unis. Qu'est-ce que le marché attend concrètement, là? Il y a un calendrier de quelque chose qui doit permettre à Nike de reprendre un peu la main en termes d'écoute historique, j'entends?
Oui, l'écoute historique Nike est un petit peu abîmée. Vous avez raison, il y a eu des balbutiements sur la stratégie entre ce qu'on allait en wholesale, en retail. Nike a fait le choix de plutôt de délaisser la partie distribution et privilégier le retail, qu'aujourd'hui est un petit peu en décélération. Et on imagine Nike, lors de sa présentation investisseur qui aura lieu normalement à la fin de l'année, au mois de novembre, présenter un plan stratégique sur les prochaines années pour essayer de convaincre à nouveau le marché.
Un mot peut-être pour finir de l'effet JO, mais au-delà des JO, du cycle des événements sportifs et de leurs impacts sur cette économie, cette industrie du sport, qu'est-ce qu'on peut en dire
Aujourd'hui, on a évidemment deux événements majeurs, l'Euro de foot et les Jeux Olympiques. À Jeux Olympiques, nous, on voit plutôt ça comme une vitrine pour les marques qui auront forcément des dépenses marketing importantes.
Ouais.
On Holding devra forcément bénéficier de ces Jeux Olympiques sur la notoriété. D'ailleurs, ils ouvrent une boutique sur les Champs-Élysées là,
dans les
prochains jours.
Ouais.
Pareil pour Oka, je pense qu'il aura plutôt des gains de notoriété. Et les gains de chiffre d'affaires réels, tangibles, ce sera pour...
C'est l'euro.
C'est l'euro.
Ah, c'est
exactement.
Ça,
les ventes de maillots,
c'est
tangible.
Ouais, donc c'est quand même deux dynamiques et deux logiques différentes entre ces événements.
Voilà,
c'est
plutôt un côté marketing, innovation, présentation de vos produits. Et l'euro, évidemment, vous pouvez vendre des maillots tout de suite.
Ouais. Ça se retrouve en chiffre d'affaires. Merci beaucoup Arnaud. Merci d'être venu nous éclairer sur cette thématique du sport. C'est une des stratégies que vous gérez chez USES Gestion. Arnaud Morvillez qui était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.